Cette vidéo est en partenariat avec Opéra. Salut, nous sommes le 3 août 2001 dans une petite ville balnéaire du Rhode Island aux États-Unis. Un homme nommé Michael Hoover ouvre sa porte à ce qu'il croit être une équipe de tournage envoyée par McDonald's. Caméra, micro, sourire professionnel, il lui demande de raconter face caméra le jour le plus chanceux de toute sa vie. Et Hoover, le hasard, il connaît bien. C'est un ancien croupier qui était criblé de dettes, un ancien croupier de casino. Il prend son air le plus sincère, il raconte comment il a trouvé la vignette Monopoly McDonald's gagnante d'un million de dollars par hasard dans un magazine People. Complètement par hasard, il était abandonné sur la plage. C'est une très belle histoire, sauf que Michael Hoover n'a jamais trouvé cette vignette sur la plage. Il est de type avec la caméra, ne travaille pas non plus pour McDonald's. Ce sont des agents du FBI et ils viennent de filmer sa fausse confession. Par contre, Hoover, ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il fait partie d'un réseau de 53 personnes qui pendant 12 ans ont arnaqué plus de 24 millions de dollars au jeu du Monopoly, que vous connaissez sûrement, de McDonald's. Des mafieux italiens liés à la famille Colombo, des mormons endettés, des trafiquants de cocaïne, des tenanciers de strip club, il y a même des médiums dans le tas. Tous ont gagné et tout a été orchestré par un seul homme, un ancien flic surnommé Oncle Jerry, qui était précisément la personne chargée de protéger l'intégralité du jeu Monopoly McDonald's. Voici l'histoire de la plus grande fraude promotionnelle de l'histoire américaine. Une arnaque tellement énorme qu'elle aurait dû faire la une de tous les journaux du monde pendant des semaines entières. Sauf que son procès s'est ouvert le 10 septembre 2001, la veille des attentats du World Trade Center, ce qui a presque passé sous silence toute cette histoire. Pour comprendre comment un seul homme a pu piller ce système pendant 12 ans, il faut comprendre qui il était et surtout quel système on lui a mis dans les mains. Jerome Jacobson, c'est son vrai nom, est né en 1943 à Youngstown dans l'Ohio, il a grandi à Miami. Il tente d'intégrer les Marines mais il est réformé pour un problème au pied, une histoire de voûte plantaire qui serait trop cambrée, ça n'a pas tellement d'intérêt. En 1976, il rejoint la police d'Hollywood en Floride. Sa carrière de flic est très courte, déjà parce qu'il est blessé au poignet en 1977 et surtout parce qu'il va s'effondrer en 1980. Il est frappé par un rare trouble neurologique qui va paralyser partiellement et parfois temporairement des endroits de son corps, ses bras, ses jambes, ses yeux et surtout son système respiratoire. Ça s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Sa première femme, Marsha, elle-même policière, va devenir son infirmière. Le couple déménage à Atlanta. Marsha décroche un poste d'auditrice dans un cabinet comptable affecté à un client nommé Dietler Brothers. Dietler Brothers, c'est une imprimerie de haute sécurité en Géorgie qui produit des timbres postaux et des tickets de loterie. Il faut bien les imprimer quelque part. On y arrive. En 1981, elle recommande Jérôme pour un poste dans la sécurité parce que sa santé s'est améliorée. Le couple va divorcer en 1983, mais la carrière de Jacobson, elle, décolle. Il gravit les échelons jusqu'à superviser toute la production destinée au plus gros client de Dietler, Simon Marketing, la société de Los Angeles qui gère le jeu Monopoly pour McDonald's. Mais c'est quoi le Monopoly McDonald's? Je peux vous dire que fin des années 90, quand j'étais presque adulte, tout le monde y jouait. C'était un monstre commercial lancé en 1987 aux États-Unis. Le principe est calqué sur le jeu de plateau. C'est pareil, à chaque menu acheté, vous recevez des vignettes autocollantes qui sont directement sur les emballages, les gobelets, les boîtes de Big Mac, les boîtes de frites, etc. Chaque vignette représente une propriété du Monopoly. Et puis, il y a des combinaisons. Si vous complétez un ensemble de couleurs, alors vous gagnez un prix. Il y avait aussi des produits gratuits, instantanés, comme des burgers, des boissons ou des desserts. Ça allait donc de la frite gratuite aux millions de dollars, versés en annuités de 50 000 dollars sur 20 ans. L'astuce marketing est extrêmement puissante. Dans chaque ensemble de couleurs, une seule vignette est extrêmement rare. Beau chance de trouver la bonne, la rare, et de 1 sur 150 millions pour certains lots. Par contre, des millions de joueurs possèdent 3 vignettes sur 4, ce qui entretient l'illusion permanente d'une victoire imminente du bout des doigts. Résultat, pendant les périodes Monopoly, les périodes où le jeu était actif, les ventes de McDonald's bondissaient d'environ 40%. C'est l'outil marketing le plus puissant de la chaîne depuis le Happy Meal. En 1988, Simon Marketing est tellement impressionné par le zèle de Jacobson qu'elle le débauche directement au poste de directeur de la sécurité avec un très beau salaire de 70 000 dollars par an. Son job, c'est d'inspecter les chaussures, par exemple, des ouvriers pour vérifier qu'ils n'ont pas caché des vignettes gagnantes à l'intérieur. Il interdit même aux chauffeurs d'aller aux toilettes sans escorte. Et il conçoit lui-même un gilet secret un gilet avec des poches secrètes et des sécurités pour transporter les vignettes gagnantes vers les usines. Les enveloppes contenant les vignettes de haute valeur sont entreposées derrière des portes blindées à double code dans un dispositif comparable à ce qu'un procureur fédéral décrira plus tard comme un silo à missiles de la guerre froide. On en est là pour les vignettes du McDo. Surnommé « Oncle Jerry » par ses collègues, Jérôme Jacobson devient le gardien absolu de toute l'intégrité du jeu de McDonald's. C'est le dernier rempart entre les vignettes gagnantes et le grand public. Et c'est ça le paradoxe de cette histoire, vous allez voir. Parce que plus un système repose sur la confiance d'une seule personne, eh bien plus ce système est vulnérable. Et Jacobson, il contrôle tout. La supervision de l'impression, c'est lui. Le code du coffre-fort, c'est lui. La découpe des vignettes gagnantes, c'est lui. Le scellement des enveloppes, il est là aussi. Le transport, la distribution dans les usines, un seul homme sur toute la chaîne. La politique de Simon Marketing exigeait 2 à 3 superviseurs sur les phases critiques, mais en pratique, Jacobson opérait souvent seul. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de gilet à poche secrète pour protéger ses données ou organiser ses recherches. On a mieux que ça, c'est le partenaire du jour et c'est Opera. Depuis que je vous en avais parlé dans la vidéo sur Jerry et Marge Silby, c'est devenu le navigateur que j'utilise sur mon ordi et mon téléphone. Ce qui est génial, c'est leur IA intégrée. Il n'y a pas besoin d'onglets supplémentaires ou de comptes. Je lui balance par exemple un long rapport PDF sur le procès de Jerry Jacobson. Ça me fait rire parce que Opera sponsorise apparemment toutes les vidéos où je parle d'un Jerry. Et elle me sort un résumé des points clés instantanément que je peux vérifier ensuite manuellement. On dirait pas, mais c'est un gain de temps fou pour mes recherches. Et en parlant d'onglets, si vous êtes comme moi, vous en avez 50 d'ouverts, Opera a inventé l'état Byland. Alors ça groupe automatiquement vos onglets par contexte. Je peux même les colorer ou les nommer. Il y a mes recherches AllThread qui restent dans une île et il y a le script du AllThread par exemple qui reste dans l'autre île. On s'y retrouve d'un seul coup d'œil. Et parce qu'on parle d'une faille de sécurité dans le sujet du jour, la sécurité c'est un vrai sujet chez Opera. Opera intègre un VPN gratuit directement dans la barre d'adresse. C'est gratuit, il n'y a pas d'extension installée, il n'y a pas d'inscription ou autre. Vous l'activez et votre navigation est sécurisée et privée sans que vos données soit collecté. Et enfin pour l'ambiance, je personnalise tout avec les thèmes. J'ai choisi un mode sombre pour rester dans l'ambiance AllThread, mais vous pouvez tout régler, de l'intensité des couleurs aux animations. C'est gratuit, c'est fluide et ça change vraiment la façon de naviguer. Mais reprenons l'histoire du jour, parce que Jacobson, une fois les clés du coffre en main, il va pas tarder à craquer. En 1989, Jacobson cède à la tentation. Lors d'une réunion de famille en Floride, il glisse discrètement une petite vignette gagnante de 25 000 $ à son beau-frère Marvin Brown. Il dira plus tard « Je ne sais pas si je voulais lui montrer de quoi j'étais capable ou juste frimer un peu, mais j'avais besoin de vérifier si j'en étais capable. » À l'usine, personne n'a rien remarqué, chez McDonald's non plus. Le demi-frère encaisse le chèque, l'arnaque est très artisanale, et elle le reste comme ça pendant 6 ans avec des petits vols sporadiques de vignettes de faible valeur par rapport à tout ce qui est disponible. Mais tout bascule en 1995 à cause d'une toute petite erreur logistique. Un fournisseur de Hong Kong expédie par erreur un lot complet d'autocollants, pas n'importe lesquels, des autocollants de sécurité anti-effraction, directement à Jacobson au lieu de les livrer à l'entrepôt sécurisé. Ces autocollants, c'est quoi exactement? Pour faire simple, ce sont les autocollants qui scellent les enveloppes qui contiennent les vignettes gagnantes des très gros lots. En termes de sécurité, c'est un peu comme si quelqu'un venait de lui poster les clés du coffre-fort par accident. Ces sauts de remplacement, impossibles à avoir normalement dans le circuit normal, vont lancer la fraude à grande échelle. À chaque transport de vignettes gagnantes vers les usines, Jacobson est accompagné. Il n'y va pas seul, il est à chaque fois en permanence avec une auditrice indépendante. C'est le règlement. Une femme qui ne doit jamais le quitter des yeux, sauf évidemment dans un endroit qui existe, où elle ne peut pas physiquement le suivre. C'est aussi simple que ça, les toilettes pour hommes, et précisément les toilettes pour hommes de l'aéroport. C'est un angle mort qui peut sembler absurde quand je vous le présente comme ça, mais qui reste très exploitable pour Jacobson. Et à chaque voyage, Jerry s'excuse, va aux toilettes, s'enferme dans une cabine, décolle le sceau de sécurité d'une enveloppe, remplace les vignettes gagnantes par des vignettes ordinaires, classiques, recèle le tout avec un autocollant de sécurité neuf donc qu'il possède, qu'il ne devrait pas avoir dans ses mains, et dissimule les vraies vignettes dans la poche secrète de son gilet. En 5 minutes c'est fait, ni vu ni connu. À partir de 1995, Jacobson ne vole plus occasionnellement. Il s'empare de la quasi-totalité des vignettes gagnantes de haute valeur, toutes celles au-dessus de 100 000 $. Pendant 6 ans, chaque million, chaque voiture, chaque gros lot qui ont été gagnés, c'est Oncle Jerry qui décide de qui gagne. Ce qui veut dire que si vous avez joué au Monopoly McDonald's dans les années 90 comme moi en espérant un gros lot, vous aviez aucune chance, zéro, le jeu était vidé des prix avant même de commencer à quitter le pays. Jacobson ne réclame jamais les prix lui-même, il n'est pas bête, c'est trop risqué. Il opère via un système pyramidal construit sur trois niveaux. D'abord, lui, il vole les vignettes, ensuite, il est transmadé, une sorte de recruteur de confiance. Les recruteurs trouvent des vrais faux gagnants qui vont réclamer les prix auprès de McDo. Et les gains sont redistribués en commission à chaque étage. La commission standard de Jacobson, c'était entre 45 000 et 50 000 dollars par vignette, souvent exigée d'avance. Ça veut dire que certains des gagnants ont dû hypothéquer leur maison pour pouvoir le payer avant même de recevoir leur premier chèque de McDonald's. Au total, Jacobson a personnellement empoché plus d'un million de dollars, tandis que le réseau dans son ensemble a réclamé plus de 24 millions. Côté train de vie, oncle Jerry n'a pas vraiment fait dans la discrétion. Il s'est acheté une belle maison en briques dans la banlieue cossue d'Atlanta, un beau terrain au bord d'un lac en Géorgie, un terrain de loisirs, une collection de voitures de sport qui renouvelle tellement souvent qu'un jour, il y a un voisin qui lui dit « Dis donc, on se demande où vous cachez tous ces tickets gagnants ?» La remarque était plus pertinente qu'il ne pensait. Et attendez la suite, c'est là que le casting devient complètement dingue. Le personnage clé, c'est Gennaro Colombo. Fin 95. Jacobson est assis en salle d'embarquement à l'aéroport d'Atlanta quand il y a une espèce de géant italien au crâne rasé qui s'affale dans le siège d'à côté et qui exhibe sans gêne une sacoche qui déborde de billets de 100 dollars. En fait, il part faire un tour à Atlantic City, probablement pour blanchir cet argent au casino d'ailleurs. Colombo, 32 ans, né en Sicile, élevé à Brooklyn, installé en Caroline du Sud, gère des clubs de striptease, des casinos clandestins et un réseau de paris sportifs. Sa mère confirme un lien de parenté avec Joseph Colombo, un ancien patron de la famille mafieuse Colombo de New York. Le courant passe très bien entre ces deux personnes. Pour sceller une sorte d'alliance, Jacobson lui offre une vignette pour une Dodge Viper toute neuve. Colombo, trop corpulent pour entrer dans la voiture de sport, gagne donc, hein, évidemment, les vignettes elles gagnent toujours, mais il demande l'équivalent en liquide parce que le règlement l'autorise à le faire et apparaît même dans une publicité télévisée nationale de McDo où la publicité met en avant des grands gagnants. Colombo va industrialiser l'arnaque, il fait gagner son beau-père, William Fisher, 1 million en 1996. Fisher, coaché, va parcourir des milliers de kilomètres de la Floride jusqu'au New Hampshire, pour aller découvrir son ticket gagnant, pour aller se faire payer, c'est-à-dire loin de toute connexion apparente. Ensuite, c'est un beau-frère de Colombo en Virginie qui devient lui aussi millionnaire, puis l'ami de sa femme, Gloria Brown, mère célibataire de 37 ans, complètement fauchée. Alors elle, pour acheter sa vignette à 1 million, elle doit débourser 40 000 dollars en cash. Ça fait partie des personnes qui vont hypothéquer leur maison. On lui fournit sa vignette et on l'envoie réclamer son prix dans un autre état pour continuer de brouiller les pistes. Colombo va mourir dans un accident de voiture en mai 1998. Mais le réseau ne va pas s'arrêter, au contraire, ça devient encore plus délirant si c'est possible. Il va par exemple y avoir Andrew Lomb, 58 ans, ex-trafiquant de cocaïne condamné en 1983 pour avoir expédié de la cocaïne pure sur un vol Pan America qui devient le nouveau super recruteur. Il distribue 8 vignettes d'un million à ses anciens associés, la famille avant tout. La famille, des amis, c'est important. Au total, là, ce réseau un petit peu dingue, c'est 53 personnes de mafieux, de mormons, de bouchers, de croupiers de casino, de médiums, de stripteaseurs. Et pendant tout ce temps, ni McDo, ni Simon Marketing ne remarquent qu'une seule et même famille a quand même réclamé 3 prix d'un million de dollars et une Dodge Viper sans déclencher la moindre alerte. Il n'y a pas une seule vérification croisée des gains, il n'y a rien qui est mis en place. L'arnaque aurait pu durer encore des années si des dissensions internes n'avaient pas tout fait éclater. En mars 2000, le bureau du FBI de Jacksonville, en Floride, reçoit un appel anonyme. Ça va être le point de départ de la révélation. L'informateur révèle que les jeux Monopoly de McDo sont truqués par un initié surnommé Oncle Jerry. Il détaille tout le système, pointe spécifiquement William Fisher, le beau-père de Colombo, et note un nombre suspect de gagnants autour de Jacksonville. L'identité de l'informateur n'a jamais été officiellement confirmée. Robin Colombo, la veuve de Gennaro, soupçonne sa belle-mère d'avoir passé cet appel par vengeance, motivée par une espèce de querelle de garde concernant son petit-fils Frankie. C'est vraiment eux, en interne, qui ont fait la connerie de s'auto-balancer. L'agent spécial Richard Dent prend l'affaire. Son collègue Doug Matthews découvre le dossier et d'ailleurs Doug va devenir la figure emblématique de l'enquête, celle qui volera la vedette à tout le monde dans le documentaire que HBO va produire sur cette histoire 20 ans plus tard. L'opération est baptisée la dernière réponse, en anglais. Ça veut un peu dire c'est votre dernier mot parce que c'est une référence au jeu télévisé d'origine de Qui veut gagner des millions. 25 agents sont mobilisés à travers le pays, 20 000 numéros de téléphone sont épluchés, 235 cassettes d'écoute téléphonique vont être enregistrées et très vite les enquêteurs découvrent un schéma géographique puisque de nombreux gagnants vivent dans un rayon de 40 km autour de la maison de vacances de Jacobson. Un triangle d'or de millionnaires un peu suspect quand même. Le FBI a identifié en quelques semaines un pattern que McDo n'avait jamais cherché en 12 ans. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas trouvé. Parce qu'il n'y avait pas de raison de le chercher. Parce qu'il aurait suffi qu'un employé de la chaîne regarde une carte pour le voir. Mais personne ne s'est jamais posé la question. Et puis, il y avait oncle Jerry pour surveiller. Comme vous pouvez facilement l'imaginer, McDonald's coopère pleinement. Le PDG, Jack Greenberg, autorise le FBI à laisser les jeux se poursuivre en 2001. Pourquoi ? Pour continuer de collecter des preuves. En gros, McDo laisse sciemment Jacobson voler une dernière fois pour pouvoir mieux le coincer. Le coup de génie du FBI, c'est l'opération Shamrock Production. Les agents du FBI ont créé une fausse société de production audiovisuelle, hein, quelque chose qui existe vraiment et qui a un slogan. Le slogan, c'est « Parce que vous avez juste de la chance ». Ils contactent donc officiellement, par le biais de cette société, tous les anciens gagnants en se faisant passer pour une équipe de tournage et ils leur demandent de raconter face caméra comment ils ont trouvé la fameuse vignette gagnante. L'objectif, c'est de recueillir les histoires inventées et de repérer plus tard les incohérences et d'avoir des sortes de témoignages, même si c'est des faux témoignages. Et c'est comme ça que Michael Hoover, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, se retrouve à inventer cette histoire de magazine People qui traînait sur la plage. Le FBI filme tout. Hoover était tellement à l'aise qu'il confiera plus tard avoir cru que la dame du reportage de McDo avait un petit faible pour lui pendant l'interview. Le 22 août 2001, à l'aube, le FBI lance des raids coordonnées dans plusieurs états. 8 personnes sont arrêtées, dont Jerome Jacobson, oncle Jerry. Sa caution est fixée à 1 million de dollars. Le procès s'ouvre donc le 10 septembre 2001 au tribunal fédéral de Jacksonville. Le lendemain, les attentats du 11 septembre balaient l'affaire des écrans médiatiques et des journaux. La plus grande fraude promotionnelle de l'histoire américaine disparaît, en quelque sorte, de la mémoire collective. On ne va plus en entendre parler, on ne va plus y penser. C'est la raison pour laquelle presque personne ne connaît cette histoire. L'acte d'accusation finale fait 62 pages et inculpe 43 personnes au total. Même si au total, 53 personnes vont être poursuivies. 48 personnes plaident coupables. Jacobson, initialement confronté à 9 chefs d'accusation pouvant quand même lui valoir 45 ans de prison, plaide coupable. Et voici ce qu'il a dit. « Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. » Il est finalement condamné en 2003 à 37 mois de prison fédérale et à 12,5 millions de dollars de restitution. C'est le seul membre du réseau à purger plus d'un an de prison d'ailleurs. Ces super recruteurs écopent d'environ un an chacun, la majorité des gagnants s'en tirent avec une simple probation. Il y a un détail que j'ai gardé pour la fin, pour ceux qui regardent cette vidéo en entier, et qui résume parfaitement toute l'ambiguïté de cette affaire. En novembre 1995, au milieu de sa frénésie de vol, on pourrait appeler cette période comme ça, oncle Jerry, Jacobson, envoie anonymement une vignette gagnante d'1 million de dollars à l'hôpital pour enfants St. Jude. Le courrier, posté depuis Dallas, est d'abord pris pour une blague par la réceptionniste, mais la vignette est authentique. McDo va bien verser le million de dollars en annuité de 50 000 dollars sur 20 ans. L'affaire fait même la une de la presse nationale parce que c'est le beau geste. Et c'est là que Jacobson espère utiliser ce geste de générosité pour alléger sa peine au procès. Mais les enquêteurs du FBI vont conclure qu'il avait juste envoyé la vignette parce qu'il n'avait pas trouvé de faux gagnant à temps avant la date limite. Et que probablement, la détruire aurait quand même laissé une trace un peu suspecte dans l'inventaire des prix non réclamés. Donc c'était juste un plan B. Quant aux conséquences, vous imaginez bien que McDo a rompu immédiatement son contrat avec Simon Marketing. L'entreprise va pas survivre à ça, son action en bourse va même s'effondrer. McDo lance une loterie compensatoire de 10 millions de dollars, cette fois avec des patrouilles surprises qui débarquent dans les restaurants pour offrir des prix directement aux clients qui sont pris au hasard dans les restaurants. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'intermédiaires, on est sûr. Le jeu du Monopoly disparaît progressivement des restaurants américains et il va revenir qu'il y a seulement quelques mois, en octobre 2025, entièrement repensé. Maintenant, ce sont des vignettes numériques qui donc sont suivies et tracées via l'application mobile. Il y a des audits indépendants et surtout, plus jamais un seul individu a un accès non supervisé à l'ensemble des vignettes gagnantes. Jerome Jacobson a été libéré en octobre 2005 après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Il mène depuis une existence simple à Atlanta avec sa dernière épouse, la 6e ou la 7e épouse selon les sources. Ça, j'ai pas trouvé exactement la vraie info. Et en 2018, l'article du journaliste Jeff Mesh dans le Daily Beast ressuscite l'affaire et déclenche une sorte de guerre d'enchères à Hollywood puisque Ben Affleck et Matt Damon vont acheter les droits de l'histoire histoire pour $1 million. Alors le film n'a pas encore vu le jour. L'affaire Jacobson est un cas d'école sur la sécurité. Le plus grand risque dans un système, c'est pas forcément l'intrus. C'est la personne qui est initiée, qui est à l'intérieur, qui a toute la confiance, qui a les clés dans les mains. Jacobson, il a pas hacké des ordinateurs pour faire tomber un système informatique, il a pas utilisé un chalumeau pour percer un coffre-fort. La fraude, elle a duré 12 ans parce que personne ne cherchait de fraude. Son passé de policier à Jacobson, puis sa réputation de maniaque du contrôle, je vous rappelle les inspections surprises qu'il faisait des chaussures des ouvriers qui quittaient l'usine, tout ça, ça faisait de lui le dernier homme qu'on pouvait soupçonner. Mais confier toute la sécurité d'un système aussi puissant à une seule personne, quelle qu'elle soit, c'est juste de l'espoir naïf. Cette histoire me fascine, non pas par l'arnaque qu'il a mis en place, mais par la possibilité qu'il a eue de mettre cette arnaque-là en place. Merci encore à Opéra pour naviguer avec plus d'intelligence et de sécurité. Je vous conseille vraiment de tester entre l'IA qui résume vos pages, le VPN gratuit pour votre vie privée et les Tab Island pour jamais être perdu dans vos onglets. C'est l'outil idéal. Vous cliquez dans le lien que j'ai mis dans la description ou dans le commentaire épinglé pour le télécharger gratuitement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je m'appelle toujours Fabien Licard. À très bientôt. Ciao.